étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre que l'on guise.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture. Sans oublier nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 44e édition de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir René Manzor dont le dernier roman, Quand ils viendront, est paru aux éditions Calmann-Lévy le 3 septembre 2025. René, bonsoir.
Bonsoir Michel.
En début d'émission, je demande à mon invité s'il préfère le mot auteur, romancier ou écrivain lorsqu'on le présente. Je n'ai même pas parlé de romancier à votre propos, en plus c'est inexact puisque vous n'êtes pas que romancier. Que ce soit au cinéma, au théâtre, à la télévision ou avec vos livres, vous vous définissez comme raconteur d'histoire. Vous l'avez toujours été et depuis tout petit.
Ah oui, oui, ça c'est depuis tout petit. En fait, c'est moi qui racontais les histoires à ma maman pour qu'elle s'endorme, vous voyez. Et elle s'endormait très vite, donc j'ai dû faire des progrès rapidement. J'ai dû vraiment me mettre un peu à m'entraîner pour qu'elle reste éveillée plus longtemps.
Depuis tout petit, donc vous aimez raconter des histoires. Elles étaient de quelle couleur? Plutôt noire, plutôt fantastique, plutôt drôle?
Ah, au début, c'était plutôt fantastique. Hein. C'est parce que forcément, quand on est enfant, les magiciens, les sorcières vous habitent. Donc oui, c'était plutôt fantastique ouais, quand j'étais petit. Puis c'est devenu un peu plus noir en grandissant.
Vous avez toujours raconté des histoires, que ce soit pour le cinéma et la télévision. Lire les histoires des autres à travers la littérature faisait aussi partie de votre quotidien?
Oui, enfin, moi j'étais très influencé au début, enfin en tout cas par les conteurs français, que ce soit Hugo, Victor Hugo, Alexandre Dumas, enfin la littérature populaire française. J'étais vraiment fasciné par ses écrits et c'est ça un petit peu qui a bercé mon adolescence. Et puis après j'ai découvert des auteurs américains, notamment du Sud, comme Steinbeck, comme Pat Conroy, comme Faulkner. Et ça a forcément internationalisé un tout petit peu mon imaginaire.
Votre nom de raconteur d'histoire est Manzor. C'est le nom de famille de votre maman. Le vôtre est Lalanne, comme Jean-Félix et Francis. Quand avez-vous choisi ce nom de plume et pourquoi?
Ben, c'était pas le nom de plume pour moi, c'était le nom de ma mère. Et finalement, moi, je me considère aussi bien fils de ma mère que fils de mon père. Donc, si vous voulez, aux États-Unis, il y a un truc très joli qui s'appelle le middle name, le nom du milieu. Et le nom du milieu, c'est le nom de sa mère. Donc, en fait, effectivement, moi, c'est René Manzor, Manzor étant mon nom du milieu. Et Lalanne, c'est mon père. J'ai mes deux noms. J'ai mes deux parents, j'ai mes deux noms.
Alors vous avez un grand et long parcours de scénariste et de réalisateur, que ce soit au cinéma ou à la télévision, que ce soit en France ou aux États-Unis, vous avez travaillé pour entre autres Steven Spielberg et George Lucas pour les plus connus et reconnus. Vous auriez pu vous en contenter, alors pourquoi avoir décidé un jour d'écrire un roman ?
Ah, c'est une envie de France. En fait, j'avais passé 10 ans donc à travailler aux États-Unis, à écrire en anglais, à diriger en anglais, à rêver même en anglais au bout d'un moment. Et la France me manquait. J'avais fait 2 petits Américains là-bas et j'avais envie qu'ils connaissent notre pays, notre continent. Et donc, c'est ce qui m'a poussé finalement à me mettre à écrire des romans. C'est juste le désir de retrouver ma langue. Et pour ça, ben, j'avais l'impression qu'il fallait juste que je me bande les yeux pour oublier le visuel hein, qui avait été ma carrière jusqu'alors. Réveiller les autres sens, pas la vue et l'ouïe, mais tous les autres qu'on peut utiliser en écrivant des romans.
Votre premier roman, Les âmes rivales, est paru en 2012 aux éditions Kero, un thriller qui se déroule aux États-Unis. Le genre et le lieu étaient deux évidences pour ce premier livre.
Oui, pour le premier, oui, parce que c'est New York est une ville dans laquelle j'ai vécu. Et la Louisiane, pardon, était en fait un pays qui m'attirait pour son côté fantastique, justement, qui font partie de mes premières amours. Et donc, j'avais envie de conjuguer les deux. Et j'avais fait un rêve récurrent depuis tout petit. Et c'était chaque fois le même rêve, c'était des décors sans personnages. Et un jour, à force de faire ce rêve, mon épouse m'a dit « Mais pourquoi tu n'écris pas une histoire à travers ces décors ? Car peut-être que ça, en habitant ces décors, et par ton écriture peut-être, les rêves s'arrêteront. » Et c'est ce qui m'a poussé à écrire Les âmes rivales. Et en fait, j'ai été faire des repérages aux États-Unis, dans les lieux en question que je ne connaissais pas quand je rêvais. Et ces lieux existaient. Donc, c'était assez étrange. Et c'est pour ça aussi que ce premier roman est un roman, comme ça, un thriller paranormal. Parce que forcément, l'origine de ce thriller, et ce sont ces rêves-là.
Vous qui aviez l'habitude d'écrire des scénarios, écrire un roman était plus compliqué, les codes ne sont pas forcément les mêmes.
Oui, en fait, il fallait apprendre à écrire un scénario, car la première expression qu'on a quand on écrit, c'est soit de la prose, soit des vers. Et donc, la première expression est forcément romanesque, en fait. Alors qu'un scénario, c'est quelque chose de plus clinique, de plus factuel. On écrit, il se lève, il va à la porte, il ouvre la porte. Vous voyez, c'est des choses qui sont, c'est des actions qui sont décrites avec extérieur, hôpital, nuit, intérieur, corridor, jour. Donc, c'est très, très, clinique. Et à ce moment-là, il n'y a pas de place pour le lyrisme, il n'y a pas la place pour, encore moins pour les monologues intérieurs. Alors que justement, à travers le roman, on peut rentrer dans la pensée des personnages, on peut savoir quels sont leurs secrets les plus intimes. Et c'est aussi ça qui m'a attiré là, c'est-à-dire d'aller plus loin que par l'objectif, hein, qui, comme son nom l'indique, reste très objectif. On est très extérieur au cinéma, alors que justement, au roman, on peut rentrer dans les personnages, dans leurs pensées, et on est très subjectif à ce moment-là.
Travailler avec un éditeur est compliqué pour vous, c'était nouveau?
Non, en fait, je travaille avec mes éditeurs, Caroline Lépée et Philippe Robinet de chez Calman Lévy. Je travaille exactement comme je travaillais avec mes premiers producteurs. C'est-à-dire, ce sont des partenaires. Alain Delon, Christian Fechner, Steven Spielberg, tout ça, c'était finalement des artistes producteurs, des gens qui étaient créatifs, créateurs. Et donc, je travaille avec mes éditeurs de la même façon. C'est-à-dire, je compare ça à un tandem, vous savez. Moi, on me donne le guidon parce que director, hein, ben, c'est celui qui donne la direction. Mais mon producteur ou mon éditeur, ils sont assis derrière moi et ils pédalent aussi fort que moi. Et si jamais je m'endors un peu, ils me tapent sur l'épaule en disant « Oh, vas-y, pédale
Écrire un deuxième roman était une évidence pour vous?
». Oui, le premier, en fait, était soufflé par mon épouse qui m'a dit « Pourquoi tu n'écris pas des romans ?» parce qu'elle lisait beaucoup. Et je lui ai dit « Bah, tu sais, en France, tu connais notre pays, on colle des étiquettes sur les gens. Donc moi, bah, pour le public, je suis réalisateur. Pour comment dire, on peut pas être à la fois danseur, chanteur, comédien. En France, c'est plus compliqué. Aux États-Unis, il n'y a pas de frontière entre les pratiques, mais chez nous, oui. Elle m'a dit, oui, enfin, tu dis ça parce que t'es pas cap. Donc, il n'y a qu'une seule chose qu'on peut pas dire à un garçon, c'était pas cap. Et donc, elle m'a poussé à écrire. Ça m'a boosté. Et donc, je l'ai écrit pour elle, en fait. C'était pas vraiment censé être édité. Et c'est elle qui l'a envoyé par la suite à mes éditeurs, qui sont toujours mes éditeurs actuels.
Écrire un deuxième roman était évident.
Ça l'est devenu parce que d'un coup, j'ai vu que le premier arrivait à plaire à quelqu'un d'autre qu'à mes proches. Et donc, à partir de là, si vous voulez, ça a libéré cette expression-là. Et du coup, je me suis mis à écrire le deuxième à ce moment-là, véritablement comme un roman et non pas comme une lettre d'amour comme j'avais fait pour le premier, puisque le premier, je l'avais écrit juste pour mon épouse.
2 ans plus tard, paraît toujours aux éditions Kerhaut votre deuxième roman, celui dont le nom n'est plus, un thriller qui se passe à Londres et qui a eu le prix du Polar du meilleur roman francophone au Festival Polar de Cognac, car suivra une signature chez Calman Levy, une reconnaissance rapide de votre travail de romancier. Elle vous a surpris?
Oui, le prix m'a surpris. Le prix m'a surpris. Dans surpris, il y a prix. Le prix m'a surpris parce que, si vous voulez, c'était une reconnaissance de mes pères, de mes nouveaux pères. En faisant ce premier roman, et surtout en le voyant publié, j'avais pas l'impression, si vous voulez, d'être romancier. Mais à partir du moment où le deuxième a reçu ce prix prestigieux, hein, du Festival de Cognac, eh bien, ça a attiré l'attention de mes pères sur moi et quelque part, ils m'ont regardé comme l'un des leurs, non pas comme un cinéaste qui venait juste croquer un petit peu de leur pain quotidien. Voilà.
De plus en plus, j'ai une impression que vous privilégiez votre carrière de romancier à celle de réalisateur et de scénariste. Raconter des histoires sans forcément en montrer les images, c'est la force de l'imaginaire. Elle est là, la véritable liberté de l'écrivain.
J'ai aujourd'hui beaucoup plus de liberté en écrivant des romans qu'au cinéma où je n'arrive pas, si vous voulez, à me mettre dans la tête que c'est un art de commande. Et quand forcément j'ai commencé à écrire des scénarios et à mettre en scène des films de cinéma, il fallait plaire à une personne, c'était le producteur. Et le producteur était la personne la plus importante, la pierre angulaire du film. C'était lui qui finançait le film, qui trouvait le financement s'il ne l'avait pas, et qui avait son distributeur, donc son diffuseur. C'était lui qui faisait tout le travail de promotion, le travail de communication sur le film. Nous, à la mise en scène, quand on écrivait en plus, on créait l'histoire. Aujourd'hui, on a affaire à des groupes. On ne doit plus plaire à une personne. On doit ne pas déplaire à 10, à un comité d'administration. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est plus du tout la même façon d'opérer. C'est plus deux personnes qui s'embarquent dans une aventure. C'est un groupe de personnes. Moi, j'ai besoin d'être maître d'œuvre. Je ne peux pas être juste un chef de chantier. Donc, c'est pour ça que progressivement, je suis resté maître d'œuvre dans mes romans, ce qui n'empêche pas que je n'ai pas arrêté la mise en scène. Mais dans ce cas-là, quitte à faire de la commande, j'ai opté pour la télévision, puisque là, au moins, les choses étaient claires. On travaillait pour une chaîne ou pour une plateforme. Et si vous voulez, c'était eux les maîtres d'œuvre. Nous, on était juste à ce moment-là de très bons techniciens. Et ça m'allait aussi parce que ça me donnait le plaisir de travailler avec des acteurs et des scénaristes et des techniciens. Mais ça n'était plus mon œuvre, c'était autre chose. Maintenant, mon savoir-dire, je le mets dans les romans, et mon savoir-faire, je le mets de temps en temps dans la télévision. Mais le romancier est devenu la pierre angulaire pour moi.
Votre nouveau roman, « Quand ils viendront », est paru le 3 septembre 2025 aux éditions Calman Levy. Pouvez-vous nous en raconter brièvement l'intrigue ?
Le héros est un petit garçon de 11 ans. C'est un petit garçon de 11 ans dont le père est un agent de la CIA. Et ce père a découvert des preuves compromettantes qui mettraient en défaut l'administration actuelle aux États-Unis. Et pour cette raison, il est pourchassé. Et pour cette raison, depuis 2 ans maintenant, avant l'élection du président actuel, il entraîne son fils comme un militaire. Il l'entraîne comme l'ancien membre des forces spéciales qu'il est. Il l'entraîne au combat à main nue, il l'entraîne au tir sur cible, il entraîne aussi son mental, sa stratégie à travers son sens de la stratégie à travers les échecs. Il lui fait comprendre, car vous savez qu'aux échecs, on doit toujours anticiper ce que va faire l'adversaire, avoir un coup d'avance, 2 coups d'avance, 3 coups d'avance. Et donc, ce gamin de 11 ans, lui, n'a pas l'impression que c'est très sérieux. Il joue avec son père, il se demande juste pourquoi tant de secrets, pourquoi, puisque son père ne lui dit rien de ce qu'il risque. Et un jour, comme ça, son père débarque à la maison, il est blessé grièvement, et il embarque sa famille dans un minivan, et il part pour la Pennsylvanie, où il a organisé leur exil. Ils ne savent toujours pas qui est après eux et pourquoi ils viendront, comme ils disent. Il faut que tu sois prêt quand ils viendront. Et donc, si vous voulez, il y a cet aspect paranoïaque dans le film. Dans le film, voyez, je dis le film, et pourtant c'est un roman, et c'est un roman haletant, qui vous entraîne dans une aventure où les personnages, finalement, sont traqués par l'administration actuelle, par la CIA, avec les nouveaux membres de la CIA, puisque l'administration a changé tous les cadres. Et donc, le petit garçon, il juste demande à son père, « Mais papa, quand ils viendront, les ennemis dont tu parles, tu seras là ?» Donc pourquoi tu m'entraînes comme ça? Il lui dit, écoute, bien sûr je serai là, parce que le père ne peut pas dire à son fils que ce sera peut-être l'une des premières victimes. Bien sûr je serai là, mais dans la vie, tu sais, il faut toujours prévoir un plan B. Et mon plan B, c'est toi. Et en fait, le plan B, c'est le roman. C'est-à-dire que le père va disparaître pour des raisons qui sont expliquées dans le roman, et le petit garçon va se retrouver détenteur d'un secret que tout le monde recherche, de preuves que tout le monde recherche, et va devoir se battre avec l'imagination d'un enfant de 11 ans et avec l'aide de l'ancienne directrice adjointe de la CIA qui a formé son père. C'est maintenant une vieille dame en retraite qui a 68 ans, et ce tandem improbable qui va être finalement les héros de ce roman, de ce thriller haletant.
Quand ils viendront se passe aux États-Unis. Vous n'y étiez pas retourné littérairement parlant depuis votre 3e roman Dans les brumes du mal. Il y avait une raison particulière de revenir dans votre pays de cœur?
Oui, la raison, c'est le premier discours du président actuel que j'ai entendu il y a 2 ans de ça pendant les primaires républicaines. Vous savez, j'ai vécu 10 ans aux États-Unis. J'ai fait 2 enfants là-bas. Donc, ce qui s'y passe à l'heure actuelle me fait quand même un peu plus d'effet que ma part française seulement. C'est le pays de mes enfants, c'est mon pays d'adoption. C'est là que ma carrière de scénariste et de réalisateur a pris son envol. C'est le pays de chacun sa chance. Moi, j'étais juste un émigré, comme ceux qui sont pourchassés en ce moment. Je venais de France, je n'étais pas natif de là-bas. Et ce sont juste des gens qui ont oublié que tous les Américains sont des émigrés, car les seuls vrais Américains, ce sont les Native Americans, les Indiens. Donc, si vous voulez, tout ce qui se passe à l'heure actuelle me sort par les yeux. Et j'étais trop tendu il y a deux ans de ça, en écoutant ce discours. Et ma femme m'a dit, écoute René, il faut écrire, parce que tu deviens impossible. Donc, écris. Et donc, je me suis enfermé et j'ai écrit cette histoire pour exorciser un petit peu la tension que je ressentais et pour montrer aussi à l'intérieur d'un thriller que les choses sont en train de changer.
Votre roman débute par une citation d'Edward Snowden, je cite, « J'ai été dans les recoins les plus sombres du gouvernement et ce qu'ils craignent, c'est la lumière ». L'histoire du lanceur d'alerte le plus connu au monde vous a inspiré ?
Oui, parce que Morgan Lee, mon héros, enfin c'est pas mon héros d'ailleurs, le père de mon héros, est un lanceur d'alerte à sa façon. Et donc je me suis retrouvé finalement, il fait son enquête clandestine au sein de la CIA, c'est là qu'il va découvrir justement les preuves compromettantes. Et de la même façon que Snowden a fait son enquête personnelle au sein de la NSA, donc c'est le même principe de départ, ce sont des patriotes. Et des patriotes qui font qu'à un moment donné, ils ont une certaine idée de leur pays. En l'occurrence, mon héros, Morgan, a versé son sang pour son pays, donc pour certaines valeurs. Alors, il sait très bien, il n'est pas naïf, que son pays est une démocratie impérialiste, parce que les Américains ont toujours été impérialistes. Mais ce n'est pas une dictature impérialiste. Donc, il y a quand même un changement de braquet, là, qu'il n'accepte pas. Et c'est parce qu'il n'accepte pas qu'il va mettre sa vie en danger.
Le personnage principal de Quand ils viendront est Peter, donc un enfant de 11 ans. Dans vos précédents romans, les enfants ne sont pas forcément acteurs principaux de l'histoire. Pour vous, les thrillers ne sont pas forcément une histoire de grandes personnes.
Non, et j'avais fait ça déjà dans un film qui a eu beaucoup de retentissement, qui était 36-15 Code Père Noël, où le petit garçon était le héros principal du film. Je trouve qu'à travers les enfants, on retrouve une innocence qui est très intéressante parce qu'elle permet de mettre en relief les cadences de certains adultes et aussi de montrer à quel point, finalement, ils sont courageux, ils sont téméraires. Et si vous voulez, ils ne reculent devant rien. En l'occurrence, le petit garçon, ça reste un enfant, et un enfant est particulièrement difficile à traquer, car son imaginaire est très fort, et celui des adultes qui le pourchassent s'est réduit avec le temps, c'est-à-dire ils se servent plus de leur cerveau, et le petit garçon se sert plus de son cœur. Et le cerveau et le cœur ne battent pas au même rythme, voyez ?
Peter est donc le personnage principal, n'est pas encore rentré dans la période de l'adolescence, ou alors à peine, il a 11 ans. C'est facile pour ce garçon de justement garder une âme d'enfant. On a l'impression des fois que c'est déjà un adulte.
Oui, parce qu'en fait, il a déjà, avant que tout ceci arrive, il est en charge de sa mère qui, elle, a, pour des raisons qui sont expliquées dans l'histoire, a vécu un drame au sein de cette famille, justement, dont elle ne s'est pas remise. Et elle est en état de dépression. Et donc, l'enfant est presque en charge de sa maman. Il aime sa mère, il aime son père. Il sait pourquoi aussi elle est comme ça. Il y a beaucoup de secrets dans ce roman. Il y a le secret géopolitique, bien sûr, mais ça n'est pas le seul. Il y a énormément d'émotions. Et donc, cette traque, pour moi, est une façon, si vous voulez, de mettre en relief l'émotion. Quand dans la vie, un drame nous tombe dessus, on est à vif. On n'est plus en représentation, on est en présentation. Et les héros de Quand ils viendront sont en présentation, ils ne jouent pas de jeu social. Et justement, à travers cette traque, cette mise en danger de la famille, les membres de cette famille vont se rapprocher. Donc c'est une histoire d'amour sous-jacente entre un père et son fils, bien sûr, mais entre un fils et sa mère aussi. Et le réveil que finalement peut lui apporter le drame, c'est-à-dire que la mère, il va falloir ce drame-là pour qu'elle se réveille et qu'elle sorte enfin de sa dépression.
Alors, Morgan, le père de Peter et le mari d'Emma, est victime d'un terrible accident, mais paradoxalement, il reste très présent à travers les pensées de tous les personnages que l'on rencontre. Il aurait pu être le héros principal d'un roman qui se passerait avant Quand ils viendront, une sorte de préquel littéraire.
Je l'ai écrite, en fait, cette préquelle. C'est ce dont je me sers, si vous voulez, pour pitcher le roman, parce que je n'aime pas trop spoiler, comme on dit, le roman, c'est-à-dire divulgâcher, comme disent nos amis québécois. J'écris toujours une histoire avant l'histoire. Et du coup, ça permet à mes personnages de véritablement exister. C'est-à-dire comme nous, là, nous nous rencontrons tous les deux, mais nous avons chacun une backstory. Il s'est passé quelque chose dans nos vies respectives avant cette interview. Eh bien, j'essaie que ce soit pareil pour mes héros, pour mes personnages. Et ce qui fait qu'en sort, ils sont très, très vivants. Ils ont une véritable existence et ils perdent leur consistance de papier. Donc, il y a effectivement une vie avant le roman, il y a une histoire avant le roman, et c'est ce qu'on appelle une backstory en termes de scénario, en fait.
Elle pourrait faire l'objet d'un roman, cette backstory ?
Non, je ne suis pas pour les suites, je ne suis pas pour les prequels non plus. Je suis pour les histoires uniques, les aventures uniques. J'ai fait trop ça à la télévision, à travers les séries sur lesquelles j'ai travaillé, avec bonheur d'ailleurs. Mais en tant qu'auteur, je fais des aventures uniques. J'aime bien remettre les choses à zéro, me mettre en danger aussi, parce que maintenant, j'ai 40 ans de métier en tant que raconteur d'histoires sur différents médiums. Pour moi, la seule façon de rester créatif, c'est de me mettre en danger. Ce n'est qu'en danger qu'on débute. Hein. Moi, je me souviens de mon premier film avec Alain Delon, Le Passage. Je débutais, j'avais 25 ans et je me souviens très bien de la puissance créative que j'avais à l'époque et c'est ce que je cherche à retrouver en débutant à chaque fois, c'est-à-dire en entrant dans un, comment dire, dans une histoire, dans un schéma, un territoire que je ne connais pas. Et à ce moment-là, dans ce territoire, je suis vulnérable et c'est par cette vulnérabilité que naît l'émotion de mes romans.
Comme à votre habitude, il n'y a pas de temps mort dans Quand ils viendront. Les chapitres sont courts et il se passe toujours quelque chose. C'est facile de rebondir chapitre après chapitre. Et il y en a 66, un prologue et épilogue inclus. Il en faut des idées.
Ah, les idées, c'est... Ça vient tout seul, en fait. Ça sort des doigts, ça sort du cœur. Mais c'est surtout quelque chose qui est extrêmement travaillé au départ. C'est-à-dire, ça a l'air très, très fluide comme ça. Mais si vous voulez, là, c'est le côté scénariste, la formation du scénariste. On n'écrit pas un scénario au fil de la plume. On le construit comme un architecte. Il est en trois actes. Il est extrêmement articulé. Les personnages, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, ont une vie avant l'histoire. Donc, si vous voulez, tout est extrêmement travaillé. Et quand finalement, j'écris, le plan de l'histoire est bâti. Et à ce moment-là, je m'autorise d'ailleurs à ne pas suivre forcément le plan, ce qui crée forcément des rebondissements, des changements de direction. Et je donne à mes personnages un droit de retrait. C'est-à-dire que si je les ai bien créés, il y a certaines choses que je vais leur demander de faire dans l'histoire avec lesquelles ils ne seront pas d'accord, pour des raisons personnelles que j'ai bâties en plus, que j'ai construites. Je me suis mis moi-même des bâtons dans les roues en leur inventant une histoire avant l'histoire, parce que forcément, dans la vie, mettons, je ne sais pas, mais si le personnage a le vertige et que je veux lui faire traverser un pont de corde, par exemple, il va me dire « bah non, moi je ne peux pas traverser le pont ». Et donc là, mon histoire s'arrête. C'est-à-dire que moi, j'avais prévu qu'il traverse le pont dans mon plan, si vous voulez. Et là, ça change tout. Donc, si vous voulez, c'est à la fois l'architecte, mais c'est aussi le jardinier. C'est-à-dire quelqu'un qui va construire les choses au fur et à mesure. Mais le cadre de départ est quand même planté. Ça ne s'improvise pas, quoi. C'est juste les personnages qui improvisent, mais pas celui qui bâtit l'intrigue.
Quand ils viendront me fait penser au film de Peter Weir, Witness avec Harrison Ford. Je pense à la pochette de votre roman, mais aussi de la communauté Amish et de Samuel, l'un des personnages principaux. Le cinéma est jamais loin dans vos romans.
Non, mais là, en l'occurrence, forcément, c'est très difficile de ne pas penser à ce film, vu que c'est lui qui a attiré l'attention. C'est ce film qui a attiré l'attention. En tout premier, un film très populaire, en plus, qui a été vu énormément. Très beau film de Peter Weir sur les Amish. Mais c'est cette communauté à laquelle j'ai pensé tout de suite, parce que finalement, comme, si vous voulez, les gens, mes héros viennent de New York. Hein. New York, c'est un des décors principaux, finalement, de ce roman. New York, pour moi, il est là pour le symbole de la Statue de la Liberté qui est en train de faire ses valises à l'heure actuelle. Et ce que j'avais voulu mettre en parallèle, c'est la communauté Amish de Pennsylvanie, justement, communauté qui vit toujours selon les préceptes des pères fondateurs, des pères pèlerins, ceux qui naviguaient sur le Mayflower, qui était à l'origine pourchassé par l'Europe et qui cherchaient une terre pour vivre librement leur foi. Et donc, ce sont ces pères pèlerins qui ont bâti les États-Unis avec les valeurs de ce pays, les valeurs que ce pays avait avant janvier. Et donc, si vous voulez, par rapport à ça, pour moi, c'était important de faire en sorte que ceux qui fuient l'Amérique d'aujourd'hui trouvent refuge dans l'Amérique d'hier. C'était symboliquement très important. Et donc, j'ai rencontré les Amish. J'ai été, comme toujours, je vais à la rencontre quand je ne connais pas, comme j'ai fait, par exemple, en Antarctique, quand j'ai écrit Du fond des âges. J'ai été passer du temps avec un chercheur en Antarctique pour pouvoir comprendre ce qui les animait. Non pas tellement voir les décors de l'Antarctique, mais comprendre comment les gens pensent quand ils sont confinés comme ça à 13 à l'intérieur d'une base, en sachant qu'ils vont avoir 4 nuits de nuit totale pendant lesquelles ils ne pourront pas être secourus, car en dessous de moins 45, le kérosène gèle. Vous voyez, ça change complètement la façon de penser, la façon de... Et donc, en allant au contact de ces gens-là, comme j'ai été au contact des Amish, on sort justement du film de Peter Weir. On voit comment ça se passe vraiment, c'est-à-dire si on sort de la vision cinématographique des choses. Et donc, j'ai trouvé des gens d'une générosité exemplaire dans un pays qui l'est de moins en moins, en tout cas son gouvernement.
Alors, comme d'habitude, vous avez réalisé la bande-annonce de votre roman, et Quand ils viendront ne fait pas exception à la règle. Vous vous faites plaisir, là, pour une fois, vous n'avez aucune contrainte.
Ah oui, c'est la récréation, en fait, c'est la récréation. Je compare ça au bac à sable, vous voyez, c'est-à-dire que j'appelle des grands techniciens, des grands comédiens, mais pour un jour. Et c'est là la contrainte, c'est qu'on a un jour de tournage. Donc en fait, ce qu'il faut, et maintenant j'ai suffisamment d'expérience pour pouvoir justement me le permettre d'être capable de faire un film de 2 minutes comme ça, ou 2 minutes et demie en un jour, parce que j'effectue moi-même une préparation énorme 1 à 2 mois avant ce fameux jour, de façon à ce que le petit scénario que j'écris soit la bande-annonce du roman. C'est-à-dire, quand on fait un film, on a toutes les images à disposition pour faire une bande-annonce. Donc, c'est assez facile, finalement, parce qu'on a la matière. Alors que là, il s'agit d'écrire et de tourner des tas de petits plans, si vous voulez, des morceaux qui sont comme des extraits du film qu'on n'a pas tourné, et de faire en sorte, après, de les assembler et de faire en sorte qu'ils deviennent la bande-annonce du roman. Et ça, je fais ça maintenant depuis mes 4 derniers romans. Et le but caché, c'est quand même de faire en sorte de pousser à lire ceux qui ne lisent pas. Parce qu'il y a des gens qui ont une image de la lecture qui est encore entachée de leur lecture scolaire, où ils se sont ennuyés en lisant. Et ils ont l'impression que la lecture est quelque chose d'ennuyeux. Eh bien, quand ils voient la bande-annonce de Quand ils viendront, pendant la bande-annonce, la plupart m'ont dit « Ah ben, il a l'air super ce film, il a l'air super, je vais aller le voir. » Et à la fin, c'est en librairie le 3 septembre. Vous voyez, donc c'est une façon de dire, vous voyez, on peut aussi se distraire en lisant. La lecture plaisir, ça existe, c'est pas forcément quelque chose d'ennuyeux. Donc c'est aussi pour ça que je fais ça, pour pousser les gens qui ne lisent pas à vivre cette aventure extraordinaire, cet art qui est le plus interactif. Au moment où on se met des lunettes pour entrer dans les jeux, on oublie que cet art interactif existe depuis Gutenberg.
Vous n'êtes pas seulement scénariste, réalisateur ou romancier, vous proposez également des séances de coaching d'écriture en ligne et des masterclass dont la première a donné lieu à la sortie de 7, un livre paru le 1er juillet 2023 aux éditions des Livres et du Rêve. Ce besoin de partager, de transmettre est en vous depuis longtemps.
Oui, j'ai beaucoup reçu de mes maîtres, Alain Delon, Steven Spielberg, George Lucas. Et donc, si vous voulez, c'est à mon tour. Je crois beaucoup, si vous voulez, au parcours des compagnons du Tour de France. J'ai fait mon Tour de France et même mon Tour d'Europe et même mon Tour du Monde. Et j'en ai glané des secrets d'écriture, des secrets de raconteurs. J'ai été au contact de grands storytellers et j'ai 40 ans d'expérience en tant que raconteur aujourd'hui. Et je me dis que ces 40 ans ne peuvent pas aller à la poubelle. Donc pour ça, une seule solution, former des padawans, comme les maîtres Jedi l'ont fait. C'est-à-dire faire en sorte que ce que j'ai appris puisse servir à d'autres. Les Américains m'ont fait faire cette masterclass et ça vient souvent de là-bas, en fait. C'est un peu mon karma. Mais je l'ai traduite en français et elle existe aujourd'hui en français depuis maintenant plusieurs années. Et elle s'appelle « Secret de raconteur d'histoire ». Et en moins de 2 heures, je compresse 40 ans d'expérience et ça permet à des débutants et même à des professionnels, puisque j'ai travaillé aussi avec des professionnels, d'acquérir ou de compléter, d'améliorer leurs compétences. Et aussi des séances de coaching qui sont des cours particuliers, ces fameux cours particuliers dont je rêvais quand j'étais gamin, puisque moi je cherchais un prof d'écriture, j'ai jamais voulu faire du cinéma, hein, je voulais être romancier moi. C'est-à-dire ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je voulais faire quand j'étais gamin. Et je disais à mes parents, une fois un prof d'écriture, une fois un prof d'écriture. Mes frères étaient dans la musique, l'un avait un prof de guitare, l'autre de piano, et je cherchais ce cours particulier d'un écrivain professionnel qui m'apprendrait comment raconter des histoires. Et c'est ces cours-là que je donne aujourd'hui, parce que ça n'existait pas à l'époque. Et maintenant j'essaye d'en faire profiter les autres.
C'est facile justement de transmettre dans ces conditions qui sont ces sessions en ligne.
Très facile, parce qu'on est face à face en fait. Et la technique me permet aujourd'hui, du coup, j'ai eu cette idée pendant le Covid, hein, c'est-à-dire quand les tournages se sont arrêtés, parce qu'on ne pouvait pas tourner avec des comédiens masqués, hein, on n'allait pas faire le fantôme de l'opéra tous. Donc, si vous voulez, moi à ce moment-là, je me suis retrouvé dans mon bureau à faire les 100 pas et je me suis dit, je ne vais pas écrire un deuxième roman. Et là, m'est revenue cette idée. Je me dis, tu te souviens, le prof d'écriture que tu cherchais quand tu étais gamin, ben, c'est toi mon gars. Et donc, j'ai mis une petite annonce sur Internet et ça a été un raz-de-marée. Je ne m'attendais pas à ça. Il y a de tas de gens qui rêvent d'écrire. Hein. Rêver d'écrire, c'est des gens qui rêvent de faire de la photo, de la peinture, de la plongée sous-marine. Et l'écriture, c'est un de ces rêves-là. Et donc, en faisant, comment dire, avec Angie Lolia, dont vous avez parlé tout à l'heure par rapport à l'édition de 7, c'était de donner à 7 nouvelles plumes l'occasion d'être édité, de rencontrer le public. Et ça a tellement bien marché qu'on a fait, en juin dernier, on a sorti 7 saisons 2 avec 7 nouvelles plumes. Et on prépare le troisième et dernier volet, 7 saisons 3, en ce moment, pour l'année qui vient.
Vous changez régulièrement de pays lorsque vous écrivez un nouveau roman. Vos personnages se retrouvent régulièrement aux États-Unis, un peu moins en France et un peu ailleurs, que ce soit Londres, Jérusalem ou la Nouvelle-Zélande. Comment choisissez-vous vos lieux? Je dirais même, comment choisissez-vous vos décors?
Ce sont souvent les décors qui me choisissent, en fait. C'est souvent l'inverse qui se produit. C'est en lisant, en parcourant, souvent faisant la recherche d'un roman, on est interpellé par des choses qui en construiront un autre. Mais moi, c'est toujours venu comme ça. C'est rarement, ce sont plutôt les aventures qui viennent à moi plutôt que l'inverse. Et là, par exemple, l'année prochaine, là, je suis en train de travailler à l'heure actuelle un retour à la série. C'est une adaptation d'une saga young adulte qui s'appelle Die for Me. Ce sera un retour à l'anglais aussi pour moi, puisque c'est une écriture, une série qui va être tournée en anglais, qui est une coproduction entre l'Allemagne et l'Angleterre et qui raconte l'histoire à base un peu comme des revenants. Vous voyez, il y a des revenants, vous n'en savez rien, Michel, moi non plus, mais nous sommes entourés de gens qui sont aussi des revenants. Et c'est un peu une histoire entre Twilight et The Highlander, sur lequel j'ai travaillé aussi quand j'étais aux États-Unis. Et c'est un plaisir de travailler là-dessus parce que c'est pour les jeunes. En fait, une série tournée comme ça pour les jeunes, 6 fois 1 heure, dont je serai le showrunner l'année prochaine, si les petits cochons ne nous mangent pas.
Vous fréquentez depuis la sortie de votre premier roman les salons et les séances dédicaces. Ça vous arrivait avant de fréquenter les auteurs et les autrices en tant que lecteur?
Ah oui, bien sûr, mais fréquenter leurs imaginaires, en tout cas pas eux directement. Maintenant, forcément, on se croise entre consoeurs et confrères dans les salons. Là, je suis en tournée en ce moment promotionnelle sur Quand ils viendront, et donc tous mes week-ends sont pris par les salons littéraires où on va à la rencontre des lecteurs et des lectrices. Et donc là, c'est vraiment des échanges formidables, parce que moi, quand j'écris, je m'adresse à une personne, simplement. Quand je faisais des films, je m'adressais à plusieurs personnes. Là, c'est une conversation singulière. En fait, on est de jardin secret à jardin secret. Et donc, forcément, de les rencontrer dans cette tournée promotionnelle qui va me prendre jusqu'à décembre, c'est vraiment un grand bonheur.
Vous êtes à l'aise de l'autre côté de la table et vous savez accueillir les lectrices et les lecteurs. Les rencontres, vous aimez ça?
Ah oui, je faisais déjà ça quand on faisait des tournées province avec les films et on allait à la rencontre du public. C'est très important de ne pas juste être le nez sur le ciné-chiffre parisien, mais d'aller un peu voir comment ça se passe en province, parce que très souvent, quand on a un film populaire, les rapports Paris-province sont de 1 à 6, en fait. Il y a un côté un peu très, très parisien dans la capitale, très élitiste, et le spectacle, pour moi, le film n'est pas un art... intérieur. C'est-à-dire, on fait un film pour les autres, pas pour soi ou pour la critique, on fait un film pour les spectateurs. Moi, j'étais formé par Alain Delon qui faisait les films pour les gens. Il faisait pas les films pour les papiers. Donc, c'est aux gens qu'on s'adresse. Spielberg s'adresse aux gens aussi. Vous voyez, c'est mes maîtres sont des grands raconteurs qui sont à la fois des gens qui maîtrisent le cinéma populaire.
Je parlais de rencontres, il n'y a pas qu'elles que vous appréciez. Je me souviens d'un tirage au sort des gagnants des lots au salon Cépage Noir en 2024 où vous aviez animé et mis l'ambiance. Ça doit vous changer du monde du cinéma et de la télévision?
Ouais, je suis un peu un showman. J'ai toujours eu ça parce que j'ai fait du théâtre en étant jeune. Je n'ai pas peur de l'expression orale, si vous voulez. Ce que tu vois, je prends plaisir à ça. Je n'ai pas de timidité. Je l'avais beaucoup quand j'étais enfant, mais j'ai tellement travaillé ça que quelque part aujourd'hui, je suis un grand déconneur aussi. C'est-à-dire que j'arrive à la fois à être noir à l'écrit, mais lumineux à l'oral. Ouais.
Vous auriez envie un jour d'écrire autre chose que du thriller, autre chose que du noir?
Je sais pas. En tout cas, c'est une source d'inspiration qui est très intéressante parce que justement, ça met les personnages à vif. Et moi, j'aime beaucoup, si vous voulez, les confronter à des situations difficiles parce que dans la vie, on est souvent confronté à ce genre de situation. Mes personnages cherchent la lumière. C'est pas des descentes aux enfers, mes romans, c'est des tentatives de sortie. Et ils la cherchent désespérément parfois, mais ils la cherchent. Et à la fin de mes histoires, il y a toujours quelque chose, que ce soit dans mes films ou dans mes romans, quelque chose dont le but est d'essayer d'aider les gens à vivre. Et donc, si jamais mes personnages arrivent à s'en sortir, en général, ça peut donner peut-être une petite idée de la grandeur des problèmes qu'on rencontre au jour le jour.
Auriez-vous envie un jour d'avoir des personnages récurrents?
Ah, j'en ai eu beaucoup à la télévision, beaucoup, beaucoup, sur des séries que j'ai menées en tant que showrunner, comme Alice Nevers, comme plein d'autres pour TF1, pour France Télé, les meurtres à tel endroit, meurtres à tel autre, les RIS, y compris j'ai fait les trois derniers de Julie Lescaut. Enfin, donc j'ai travaillé avec des grands, disons, des grandes marques de la télévision française. J'ai eu la chance de faire la même chose aux États-Unis avec des séries comme The Young Indiana Jones Chronicle, les aventures du jeune Indiana Jones, The Highlander, le fameux Highlander, The Hitchhiker, le voyageur, enfin plein de séries qui sont devenues mythiques. Et donc, si vous voulez, sur ces séries, il y avait beaucoup de héros récurrents. C'était le principe des séries. Et donc, là, j'ai tout sauf envie de faire ça. Je préfère la mini-série comme celle que je vais faire, par exemple, avec Die for Me. Parce que c'est, si vous voulez, c'est très proche du roman. On a le temps d'explorer des personnages. Et pour moi, les personnages, c'est ce qui est le plus important dans les romans. L'intrigue, qu'elle soit, bien sûr, qu'elle va être pleine de rebondissements et qu'elle va être haletante, c'est quand même le minimum syndical quand on écrit un thriller. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est les personnages. L'intrigue n'est que les fondations, finalement. Les personnages, c'est la maison. On n'habite pas les fondations, on habite sa maison.
J'imagine que vous êtes dans l'écriture d'un nouveau roman. Dans quel continent se déroulera-t-il?
Je ne suis pas en écriture d'un nouveau roman, parce que je suis encore dans les couloirs de la maternité. Vous savez, je viens à peine de sortir le roman, donc si on me demande le prochain, c'est quoi, un garçon, une fille? Vous
C'est
voyez, c'est
trop
pas la
tôt.
question. C'est trop tôt pour poser la question.
Bien, tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicace. Il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le cœur, épaule contre épaule, sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure. Sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates des prochaines séances dédicaces. René, quel est votre dernier coup de cœur littéraire?
C'est Patrick Bowen, un écrivain formidable que j'adore, qui a sorti différents romans, mais c'est L'heure du diable. Le roman s'appelle L'heure du diable. Il est paru chez Albin Michel.
Côté proposition de la quinzaine, notons le roman d'Emma Pathé, La Déroute, aux éditions Buchet-Chastel, le polar d'Arnaud Delattre, L'ivresse de la vengeance, aux éditions Les Presses littéraires, le roman de Maryse Villermet, La Piaz, aux éditions du Rouergue, le polar de Robert Ferrari, L'escalade des maudits, aux éditions Le Diamant de la Vouivre, le roman de Sacha Lange, Meute, Swing et Pirate, aux éditions Battement par minute, le polar historique de Marc Dugas, Légitime violence, aux éditions Albin Michel, le roman noir d'Andrea Camilleri, Le Tout à moi, aux éditions Point, le roman de Thomas Negaroff, La Conspiration, aux éditions Albin Michel, le livre de Shane Bobricki, Stéphane Fichtel, Jérôme France, Christelle Freux, Anne Lewerf, François Le Rouxel, Michel Rede, Nicolas Tran, Amélie Vialet et Catherine Virlouvet, Une histoire économique et sociale, La France de la préhistoire à nos jours, aux éditions Passé composé, le polar de Jonathan Kellerman, Le Musée des Désirs aux éditions Point, le thriller de Gillian McAllister, L'Instant d'après aux éditions Sonatine, le polar de Saturamo, Il dure aux éditions Point, le thriller de Joseph Incardona, Le Monde est fatigué aux éditions Finitude, le livre de François Bourmeau, Une histoire sportive du 19e siècle, France-Angleterre aux éditions Atlande, le thriller de Jérôme Segunz, La parure de sang aux éditions Assiel, le polar de Pier Giorgio Pulici, Si les chats pouvaient parler aux éditions Gallmeister, le roman de Bernard Werber, La Voix de l'Arbre, aux éditions Albin Michel, le livre de Laurent Cachard, Un monde sans Murat, aux éditions Lendemain, le roman d'Henry Wise, Nulle part où revenir, aux éditions Sonatine, le thriller de Soren Zweitrup, Cache-cache, aux éditions Albin Michel, le polar d'Elisabeth George, Une silente agonie, aux éditions Presse de la Cité, le thriller de Margot Estner, La théorie du mal, aux éditions Les Lauréats, le polar de Donna Leon, L'épreuve du feu, aux éditions Calman Levy, le roman de Jasmine Ward, Nous serons tempête, aux éditions Bellefond, le polar de Mathieu Bertrand, Les Sentinelles, aux éditions M+, le thriller de Jean-Marc Desnaux, Alan, aux éditions Tornada, le polar de John Lear Horst et Thomas Enger, Faux-semblant, aux éditions Gallimard, et le roman de Kate Moss, La cité des morts, aux éditions Sonatine. Pour terminer l'émission, les dates de rencontres et de séances dédicaces. René, avez-vous des rencontres et séances de dédicaces dans la région proche à annoncer?
Dans la région proche, pas vraiment. Je serai à la foire de Brive, qui n'est pas vraiment la région proche, mais j'y serai juste le 7 et le 9 novembre.
C'est le salon incontournable, c'est un des plus grands salons de France.
Ah oui, oui, non, c'est la folie.
Oui, oui. Du côté des séances dédicaces dans la région proche, le vendredi 7 novembre 2025, à la médiathèque de Blanzy, en Saône-et-Loire, Christophe Royer à 17h30, et à la bibliothèque La Balme sur Cerdon, Philippe de Bise à 19h. Le samedi 8 novembre 2025, à la médiathèque de Sourcieux-les-Mines dans le Rhône, Arnaud Delâtre, de 10h à 12h. Et au théâtre de Bourg-en-Bresse, dans le cadre du temps fort La Fiesta de la Mort du 4 au 8 novembre 2025, Radio B vous propose une émission de radio en direct avec Serena Giuliano. Il sera évoqué notamment avec elle le deuil et la résilience, sujet qui occupe une place centrale dans certains de ses ouvrages. Serena Giuliano sera en séance dédicace après l'émission au théâtre de Bourg-en-Bresse, puis de 14h30 à 16h30 à la librairie du théâtre. Le vendredi 14 novembre 2025 à la médiathèque à Chaponneau, Maryse Vuillet Hermès à 18h. Le samedi 15 novembre 2025 à Chazelles dans le Rhône, la fête du livre de Chazelles de 10h à 18h avec entre autres Christophe Royer, Arnaud Delâtre, Didier Fausset et Jean-Louis Nogaro. À la librairie Zanini à Bourg-en-Bresse, Isabelle Duquesnoy de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h. Et à la bibliothèque de Douvres, Philippe de Bise à 19h. Eh bien, Roman de Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. René Manzor, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de Gare.
Merci Michel, merci à vous.
Rappelons que votre dernier roman, Quand ils viendront, est paru aux éditions Calman Lévy le 3 septembre 2025. On peut se procurer chez tous les bons libraires, sans oublier vos 7 autres romans.
Absolument, oui, mais c'est déjà le 8e. C'est déjà le 8e.
On peut suivre votre actualité sur Internet via votre site Internet www.renemanzor.com, chose rare pour un auteur, sans oublier les inévitables réseaux sociaux.
Absolument.
Les prochains invités de Roman de Gare le jeudi 20 novembre 2025 seront l'écrivain Laurent Cachard et Stéphane Pétrier, le chanteur du Voyage de Noces. Ce dernier a écrit Les Noces d'Émeraude, radioscopie du voyage paru aux éditions Lendemain le 1er décembre 2024, un livre consacré au mythique groupe de rock lyonnais, Le Voyage de Noces. Il nous parlera également d'Un monde sans Murat, un livre consacré à Jean-Louis Murat. Le rock, ça vous attire ?
Ça a beaucoup attiré mes frères, en tout cas.
Bien. René, bonne chance pour la suite de vos aventures de raconteur d'histoire. Bonne séance dédicace et à bientôt sur Radio B.
Merci Michel, à très bientôt sur les routes.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction ? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose.